D'accord. Alors, on a parlé la dernière fois, donc, Anil et Dodi, Védodili. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Donc, on a parlé que le mois de Elul, le mois donc, dans lequel nous sommes maintenant, c'est un mois qui est destiné, qui est réservé à la Teshuva, au repentir. Seulement, Teshuva, c'est un grand mot, d'accord, ça fait peur, d'accord, devoir renoncer à tous les plaisirs du monde pour devenir un moine dans un... Non, Chas v'Shalom. Mais bon, c'est un peu l'image que ça donne de faire tchouva. C'est une notion qui fait peur. Qu'est-ce que la Torah veut de nous lorsqu'on va faire tchouva? Et de quelle façon on doit faire tchouva? Alors, en réalité, pour répondre à ces deux questions, on pourrait écrire des livres entiers, on pourrait parler pendant des heures. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la tchouva. Il y a beaucoup de klalim, de règles, de généralités. Donc nous, on ne va pas rentrer dans tous les détails. On va attraper un petit point qui est intéressant. D'accord. Donc ce que je vais dire, c'est le Rav Shachnezon qui le ramène. Le Rav Shachnezon, il est niftar il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a moins d'un an. C'était un des élèves du Chefetz Chaim. Entre parenthèses, c'est lui, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire, qui avait rêvé du Chefetz Chaim il y a 3-4 ans. Vous avez entendu l'histoire? Bon, un vieux rabbin comme ça qui a rêvé du Chefetz Chaim et qui avait annoncé que donc, le Chefetz Chaim lui avait dit que le Mashiach était imminent. Donc Bezrat Hashem, on espère que donc, le rêve s'applique très prochainement. En tout cas, le Rav Shachnezon, il ramène un pasouk dans Nitzavim que je vous ai rapporté ici. Donc Parashat Nitzavim, c'est dans quelques parachiotes, il y a marqué comme ça. Ve'ata tashuv v'shamata bekol Hashem. En français, quant à toi, tu reviendras au bien et tu écouteras la voix de Dieu. Je répète le verset. Quant à toi, tu reviendras au bien et tu écouteras la voix de Dieu. Lorsqu'on lit le verset, on a l'impression qu'il y a une certaine redondance. Pourquoi? Il y a marqué Ve'ata tashuv. Lorsque tu reviendras, c'est quoi viendra? Je reviendrai, je vais faire quoi? Je vais faire tchouva. Alors, tu écouteras la voix de Dieu. Enfin, pas alors. Et tu écouteras la voix de Dieu. C'est quoi faire tchouva? C'est pas écouter la voix de Dieu? Donc, vous comprenez? Donc, apparemment, ici, il y a une redondance. Pourquoi le verset répète deux fois la même chose? Le Sforno explique. Donc, Sforno, c'était un des grands commentateurs du Chumash. Dit que le mot tchouva, c'est vrai. C'est juste de le traduire lorsque tu reviendras. Mais il a aussi une autre signification. Lui, il va faire le rapprochement entre le mot tashuv, tu reviendras, et le mot beshuva. Ça veut dire beshuva, une expression en hébreu qui dit ishuv adat. C'est quoi ishuv adat? Tranquillité. C'est-à-dire que le mot beshuva, ça veut dire en toute tranquillité. Cool, relax, sans stress. D'accord? Et donc le Sforno, il dit dans ces cas-là, comment est-ce qu'il faudrait lire le verset? Alors je vous l'écris ici. En toute tranquillité, dans le calme. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas celui-là. Lorsque tu seras en toute tranquillité, alors tu écouteras la parole d'Hachem. Ça veut dire que, afin justement de faire tchouva, afin d'arriver à écouter la parole d'Hachem, d'accord, c'est quoi la première chose que je dois faire? C'est de me calmer, d'être tranquille, de fuir justement le stress, un certain stress. D'accord, ça c'est la base numéro un de la teshuva. Un homme qui est excité, qui est occupé, qui est préoccupé, qui est stressé, d'accord, avec tous les autres adjectifs que vous voulez, les synonymes, il ne peut pas arriver à faire une teshuva normale. Il va faire une teshuva bancale ou il ne va pas faire teshuva du tout. Donc la première chose qu'on doit rechercher, c'est cette tranquillité d'esprit. D'accord, en réalité, le Sforno, il ramène ça d'un verset, mais on voit aussi que le Ramchal, le Messilat et Charim, d'accord, il ramène ce point-là. Là-bas, il explique. Alors, vous lisez en hébreu ou en français? Qu'est-ce que vous préférez, messieurs?
Les deux.
On y va. Le Messilat et Charim, donc c'est au début. Je crois qu'on l'avait déjà ramené dans un cours. C'est pas grave. Ve'ulam ve'inezot be'emet achad mitarboulat ayetserara va'aramato. Une des ruses du Yetserara, donc du mauvais penchant, c'est justement... justement ça. Les arbid avodato betmidut al libot ben adam atchelo yisher lahem reval itbonet bistakel beze derech emolchim. D'alourdir de façon tamid, tmidut, comment on dit tmidut en français, de façon continuelle, sans arrêt, le cœur de l'âme, d'alourdir le cœur de l'homme. Ça veut dire de ne pas laisser tranquille, de ne pas laisser le cœur de l'homme tranquille. Sans arrêt, un nouveau souci. Justement, afin de lui empêcher de ne pas lui donner de révar, de tranquillité, pas de révar, de temps, de révar, de l'idbonen, de réfléchir et de regarder, de scruter le chemin dans lequel il se dirige. Donc là, la tarboula, comment on dit tarboula en français ? La ruse numéro 1, enfin, peut-être pas numéro 1, peut-être la numéro 2, mais une des ruses essentielles du Yetzer Hara, c'est sans arrêt te préoccuper, sans arrêt te préoccuper. Et là-bas, le Messie Tisharim, il nous dit « Ki yodea ush ilulé ayu samim libam kimat al-kat al-darkeem vadaï shem miyad ayu mitralim la'inecham ma'asev » etc. Et il dit « C'est clair que si l'homme, il levait le pied un petit peu, il s'isolait un petit peu, justement, il essayait de fuir ses problèmes, de fuir le stress, de commencer à réfléchir, alors immédiatement, enfin pas immédiatement, mais de façon rapide, il peut arriver justement à la conscience de se rapprocher d'Hachem, de faire tchouva. Et Varez et Merian et Tzed Paro Aracha. On voit que lorsque, c'est un des conseils de Pharaon, lorsque Moshe Rabbeinu, il va venir dire à Pharaon la fameuse phrase, quelle phrase il a dit à Pharaon ? Vous ne la connaissez pas ? Laisse partir mon peuple, let my people go, laisse partir mon peuple. Qu'est-ce qu'il va faire Pharaon ? Bon, la discussion va finir et il va demander, dis-moi, qu'est-ce qu'ils font les juifs aujourd'hui ? Ils font des briques avec de la paille. Qui c'est qui leur fournit la paille ? C'est nous ? Et bien maintenant, ils vont devoir fabriquer des briques sans paille. Pourquoi est-ce que Pharaon, il a voulu enlever la brique, la paille des briques ? Pourquoi il voulait qu'il... Pourquoi il a fait ça ? Alors on dit le Messie, la Tisharim, pour justement alourdir leur travail. Qu'est-ce qu'il s'est dit Pharaon ? Il dit, oh là là, ça va pas, là, les juifs, ils commencent à penser à la liberté, ils commencent à penser à toutes sortes de choses. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'ils ne sont pas assez occupés. Si tu commences à réfléchir sur des problèmes philosophiques ou sur ta condition, c'est que tu n'es pas occupé, c'est que tu as du temps libre. Ah, alors, si tu as du temps libre, je vais te l'enlever ce temps libre. Et je vais te rajouter du travail. D'accord ? Il y avait un rabbin qui disait, enfin, pour rigoler, mais c'est pas rigolo, c'est une triste réalité. Lorsqu'il va dire le Rav Charnezon, il dit, c'est pour ça que le Shabbat, c'est le même aussi, le même langage que Beshuva, la tranquillité. Le Shabbat, justement, on doit rechercher cette tranquillité. Le Shabbat, c'est un jour où on doit arriver à se déconnecter de tout pour justement arriver à l'Eid Bonenout, à la réflexion. Il dit, ce qui est malheureux, c'est qu'en Israël, c'est lorsque tu vas le vendredi après ton travail à la station d'essence pour faire le plein, qu'est-ce qu'ils te donnent là-bas ? Une pile de magazines, une pile de journaux. Pourquoi ? Il dit, etc. Il dit, oh là là, qu'est-ce que tu vas faire Shabbat ? Tu vas être tranquille, tu vas manger avec ta famille, tranquillement. Non, non, pas du tout. Tiens, je t'ai réservé un bon paquet de magazines. Tu auras de quoi t'occuper, ta tête, tout le week-end. Et justement, c'est un des et ça du Yetzer Hara. En tout cas, le Rav Charnezon, il continue. Donc pour résumer, mes cheveux, quelqu'un, il veut faire tchouva, d'accord ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit se réserver du temps à cette tchouva. Comment il se réserve ce temps à cette tchouva ? En se déconnectant de tout ce qui le stresse. Vous savez ce qui stresse, enfin, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a raconté quelque chose de très joli, ça m'a fait très très plaisir. Donc c'était un homme, un pauvre garçon qui avait un iPhone, d'accord ? Bon, malheureusement il avait un iPhone. Et bien, Baruch HaShem, il a fait tchouva, il a jeté son iPhone. Il s'est débarrassé de son iPhone. Et il m'a dit, tu ne peux pas t'imaginer la vie que je vis aujourd'hui, la vie de tranquillité que je vis aujourd'hui. À l'époque, j'avais été sans arrêt branché, sans arrêt aller sur mes mails, sans arrêt aller sur les réseaux sociaux, voir quelqu'un qui m'a écrit, sans arrêt, j'étais sans arrêt préoccupé. J'ai plus ça, je suis tranquille, ma tête est tranquille, j'arrive à réfléchir aujourd'hui. Et c'est une chose extraordinaire, hein. Pour ça, il avait abandonné son iPhone, c'est une grande chose. En tout cas, le Rav Charnezon, il continue, et il nous dit... Il nous ramène un autre verset dans Berukotai. Il y a marqué quoi dans Berukotai ? La paracha de Berukotai, c'est une paracha où là-bas il y a toutes les malédictions. Mais avant les malédictions, il y a les bénédictions. Comment ça commence ? Il y a marqué Im Berukotai Telehu, Vet Mitzvotai Tishmeru, Va'asitem Otam. Si vous conduisez selon mes lois, d'accord ? Si vous gardez mes préceptes et mes écritures, ça va servir. Si vous vous comportez comme des bons juifs, alors vous aurez un tas de récompenses extraordinaires. C'est quoi les récompenses qu'on a ? C'est. Bon, il y a toutes sortes là-bas de récompenses, mais là-bas, il y a un verset, le cinquième verset, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit « Viachavtem la vetar be'artsechem » et vous demeurez en sécurité dans votre pays. Le Rambam, il explique, ça veut dire quoi ? Demeurez en sécurité, vous serez tranquille. Justement, la récompense de la volonté d'aller dans le chemin d'Hachem, l'effort qu'on fait pour aller justement dans le chemin d'Hachem, c'est justement d'acquérir cette pérennité, cette tranquillité, ce qu'on parle justement de ce Yishuv Adat. Et c'est la récompense donc de... C'est non seulement le moyen d'y arriver, mais c'est aussi la récompense. Il y a un truc intéressant que j'aurais bien voulu vous dire si j'avais un sidour. Est-ce qu'il y a un sidour ici ? Dans le Shema Israël, tous les jours on dit quelque chose d'intéressant. Je fais une petite parenthèse, mais elle est utile. Il y a marqué que Chazal, ils nous disent que dans ce monde, il n'y a pas de récompense pour les mitzvot. Ça veut dire, en hébreu, srar mitzvah be'ay al malaika. Le salaire d'une récompense dans ce monde, il n'y a pas. Ça veut dire que aujourd'hui, tu vas faire plein de mitzvot, ne t'attends pas à recevoir de récompense des mitzvot que tu fais. Pourquoi ? Alors, il y a plein d'explications. Une des explications, c'est qu'une mitzvah, en réalité, c'est un nechès. Comment on dit un nechès ? Un bien que tu as acquis, mais c'est un bien spirituel. C'est un bien que tu as mis pour l'éternité. Si aujourd'hui, Hachem devait nous payer ce nechès-là, ce bien-là, il n'y aurait pas assez de richesse dans le monde pour le payer. Pourquoi ? Parce que l'éternité, comme son nom l'indique, elle est éternelle. Donc même la plus petite récompense pendant toute l'éternité est toujours plus grande que la plus grande récompense dans la... Dis-nous un beau mot de Nietzsche ou de... Dans la finalité, dans le... D'accord, qu'est-ce que vous préférez ? Que je vous donne aujourd'hui 500 millions d'euros ou tous les jours, pendant toute l'éternité, je vous donne 1 euro ? Qu'est-ce qui est mieux ? C'est vrai, on a 500 millions, on s'éclate tout de suite. D'accord, mais après, quand tu les as finis, qu'est-ce que tu fais ? Il ne reste plus rien. Par contre, si tu prends 1 euro tous les jours, sur 550 milliards d'années, c'est pas mal au bout du compte, oui. Donc c'est pour ça que Hachem ne peut pas nous donner la récompense de nos mitzvot dans ce monde. Bon, ça c'est une des réponses. Il y a beaucoup d'explications, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'on voit que, oui, certaines fois, il donne la récompense de certaines mitzvot. Bon, ça va un autre cours. En tout cas, donc si on a dit qu'il n'y a pas de salaire de mitzvot dans ce monde, alors il y a un truc qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? Le Rambam lui pose la question. Qu'est-ce que vous dites tous les jours, messieurs, dans le Shema Israël ? Vous êtes Shema Israël ou pas ? Vous comprenez ce que vous dites ? Bien sûr. Alors comme ça c'est écrit. Ve'ayim shamoa tishmeru el mitzvotai. Et voici si vous écoutez mes mitzvot. D'accord ? Donc si vous comportez comme des bons juifs, vous écoutez les mitzvot. Donc c'est pourquoi les écouter si vous les appliquez. Asher anochi metzavet remayom, ce que je vous ordonne aujourd'hui, le avait Hashem elokechem ulavdo, d'aimer Hashem et de le servir, bechol levavchem ufron nafshechem, de tout votre cœur et de tout votre âme. Alors, qu'est-ce qui se passera si bemet on fait les mitzvot? Venatati metaratzechem beito yore ou malkoch, et se donnerait pour vous la pluie, d'accord, en son temps, yore ou malkoch. C'est quoi yore ou malkoch? C'est deux sortes de pluies qui sont nécessaires pour faire germer donc la nature. Va safta deganecha, et tu récolteras ton blé, vetirochra, et ton vin, itzarecha, et ton huile. Venatati esseb esadecha, je donnerai donc du pâturage à tes bêtes. Non, je donnerai le pâturage pour tes bêtes, et tu mangeras, pas de façon mesquine, et au contraire, tu seras rassasié, etc. D'accord ? Donc on voit ici, quelque chose qu'on dit tous les jours, que si on applique les mitzvot, alors, qu'est-ce qu'on va recevoir ? On va recevoir la parmassa, on va recevoir la tranquille, etc. Alors comment tu me dis, d'un côté tu me dis qu'il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde, et d'un autre côté tu me dis que, ici, oui, il y a un salaire des mitzvot dans ce monde ? Contradiction, qu'est-ce que vous dites, messieurs ?
Des conséquences plutôt.
Hein ?
C'est plutôt des conséquences.
C'est plutôt des conséquences, pas mal ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis. C'est très bien, c'est exactement ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam nous explique, dit qu'en réalité ici, c'est pas le salaire des mitzvot. Si tu vas faire des mitzvot avec tefillin, d'accord, le salaire de ces mitzvot-là, il sera pour toi, Olam Haba. Mais là, c'est autre chose qu'on te donne. C'est on va te donner la possibilité de faire encore des mitzvot. Plus un homme va se sanctifier, plus on va l'aider à se sanctifier. Plus un homme va s'élever, plus on va l'aider à s'élever. Un autre point de la Tchouva qui est lié donc avec ce qu'on a dit maintenant. Mais avant ça, pour expliquer ça, une toute petite introduction. Il y a une notion qui s'appelle le libre arbitre. Mais vous savez ce que c'est le libre arbitre ? C'est quoi le libre arbitre ? Alors lorsque tu parles à des Israéliens, dans le monde israélien, ils comprennent mal la notion de libre arbitre. Eux, on leur dit, mais pourquoi tu fais ça ? C'est péché de faire ça. D'accord, j'ai le libre arbitre, je fais ce que je veux. C'est une erreur. Le libre arbitre, ça signifie pas que tu as le droit de faire ce que tu veux. Ça signifie que tu as la possibilité de faire ce que tu veux. Hachem, lorsqu'il a créé l'homme, il n'a pas voulu le créer en tant que robot, comme un robot. D'accord, un robot, il réfléchit pas, il fait ce qu'on lui a dit de faire. D'accord, Hachem, bon. Pour quelle raison Akash Borou il a créé l'homme, c'est une autre discussion, mais sans entrer dans tout ça, Hachem il a créé l'homme justement avec des aspirations, à faire le bien, à faire le mal. C'est justement ce qui va lui donner un mérite. D'accord, si on était des robots et on était programmé que pour faire le bien, on n'aurait aucun mérite. Justement, du fait que maintenant, on a le libre arbitre, on a la possibilité technique de faire le bien et de faire le mal, d'être attiré vers le bien et d'être aussi attiré vers le mal, c'est comme ça qu'on va justement acquérir des mérites. D'accord ? Donc, quel rapport ? Oui, très bien. Donc, Hachem nous a mis devant donc le libre arbitre. Ça veut dire qu'à chaque instant, on est confronté à des choix. Quelle sorte de choix ? Quelle sorte de choix ? Toujours deux choix. Le bien et le mal. Même dans le bien, il y a deux chemins. Il y a le super bien et il y a le bien. Et même dans le super bien, il y a deux chemins. Il y a le super super bien et il y a le super bien. Il y a toujours juste ce choix qui est face à nous. Quand je dis toujours, c'est pas seulement le matin, c'est pas seulement quand je suis en France et je réfléchis, est-ce que je pars en Israël à la Yeshiva ou est-ce que je pars en vacances sur la Côte d'Azur. Pas seulement à ce moment-là, j'ai ces deux chemins. C'est même lorsque je suis à la Yeshiva, est-ce que je me lève ce matin ou est-ce que je fais la grâce matinée. Et c'est pas seulement lorsque je me suis levé le matin pour aller à la tefila, est-ce que je fais vite, je vais me dépêcher faire une belle tefila ou est-ce que je vais me laisser emporter par ma fatigue. D'accord ? Et c'est même pas lorsque je vais faire une belle tefila. C'est est-ce que je vais faire une très belle tefila, je vais essayer de penser à chacun de mes mots, ou est-ce que bon, je vais essayer de m'appliquer, mais bon, sans trop pousser. Ça veut dire que le choix, il est sans arrêt. Jusque dans les pensées. Lorsque j'ai une pensée qui me saute au visage, qu'est-ce que je vais faire avec cette pensée-là ? Est-ce que je vais l'entretenir ou est-ce que je vais la repousser ? Donc on voit que sans arrêt, là, il y a une lutte contre notre mauvais penchant. Est-ce que je vais aller du côté du bien ou aller du côté du mal ? D'accord ? Alors maintenant, il y a une notion qu'on a dit tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure. On a dit, est-ce que les actes que je vais faire dans la journée, les choix que je vais faire dans la journée, est-ce qu'ils vont avoir un rapport les uns avec les autres ? Je m'explique. Si par exemple, maintenant, il y a un mendiant qui me tend la main. Ouais, il me tend la main. Il me demande une petite pièce. Alors, à ce moment-là, il y a deux voix qui me parlent. Rappelez les dessins animés, là, il y avait deux... Il y a deux voix qui me parlent. Il y a une voix qui me dit, regarde ce pauvre mendiant, donne-lui une petite pièce. Allez, vas-y, donne-lui une petite pièce. Et il y a l'autre voix qui me dit, mais non, on lui donnera du tout, dit qu'il aille travailler ce feignant-là. Il aille travailler, moi je vais nourrir tous les pauvres. Alors, là, il y a un choix. Je suis livré à un choix. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que vous auriez fait, messieurs ? Oh, vous êtes sympa. C'est un choix. Une heure plus tard, il y a mon copain, il m'appelle et il dit, hey, viens avec moi ce soir, il y a un cours de Torah. Est-ce que tu viens avec moi ? Là encore, il y a les deux petites voix qui viennent me parler. Il y a une voix qui me dit, ouais, un cours de Torah, c'est bien, vas-y, va écouter, va te renforcer, on est Eloul maintenant, on a besoin de avoir Hoshana. Et l'autre voix, elle lui dit, bon, vas-y, ça va, laisse tomber, qu'est-ce qu'ils vont dire, faire tchouva, on a l'habitude, on connaît déjà, hein, la tchouva. Et au pire, on pourra le voir sur Internet, le cours, on va pas s'embêter. D'accord. Alors, est-ce que le choix que j'ai opéré dans mon premier combat va-t-il avoir une influence sur mon deuxième combat ? On a l'impression, on a envie de dire non. Pourquoi ? Rien à voir, s'il a donné la Zdaka et un compte. C'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Nous dit Rabbi Chaim Freelander, d'accord ? Il dit que oui, elles ont à voir, elles ont grandement à voir. Il y a un effet domino ici. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit comme ça. Je la connais, mais je vous la répète comme avant l'écrit. Ben Azaï Omer, Ben Azaï nous dit Averatz le mitzvah kala keba chamura. Cours vers la mitzvah aussi facile qu'elle puisse te paraître et fuis la faute aussi légère qu'elle paraisse. D'accord ? T'as une mitzvah face à toi, cours après elle, fais-la. Il y a une avéra, fuis-la. Pourquoi ? Pourquoi je dois faire ça ? Car une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Et une faute entraîne une autre faute. J'écris un autre faute là, il fait une faute d'orthographe. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ? Car le salaire d'une mitzvah est une autre mitzvah. Et le salaire d'une faute est une autre faute. Dit le fait justement que maintenant que tu as donné cette pièce à ce mendiant-là, qu'est-ce que ça a entraîné ? Ça a entraîné que tu t'es levé d'un cran, tu t'es purifié, tu t'es sanctifié. Lorsque demain ou tout à l'heure, il y aura une autre épreuve devant toi, le fait que tu t'es approché vers le bien, alors tu seras amené plus facilement à faire ce bien-là. Donc on voit que la mitzvah que l'on fait, elle n'a pas seulement... Le bénéfice de la mitzvah, c'est pas seulement la mitzvah que je vais acquérir au Olam Haba, c'est aussi quelque chose qui va m'aider à avancer, qui va m'aider à me sanctifier. D'accord ? D'accord. Donc on a expliqué au début, d'accord, qu'est-ce qu'on avait expliqué ? La tranquillité. Cette tranquillité, donc c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Lorsqu'on va rechercher cette tranquillité, on va s'isoler, on va prendre un livre dans un coin, on va laisser tomber tous nos problèmes, on va prendre le temps au milieu du travail de s'arrêter de réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, du fait qu'on a justement cette tranquillité, Hachem, il va nous donner une part de cette teshuva. Il va nous donner une perche de se rapprocher. Lorsqu'on va saisir cette perche de se rapprocher, on va faire des mitzvot. Grâce à cela, on va réussir à faire teshuva et justement acquérir encore une autre part de tranquillité, etc. Et on va rentrer dans un cycle qui, Bessrat Hachem, va nous aider à nous élever. Bien entendu, arrive un moment où c'est bien plus difficile, où l'isolement il est beaucoup plus difficile, et les notions sont beaucoup plus fines, etc. Mais déjà, dans un premier temps, si on arrive à faire un gros décrassement, alors la porte, elle est ouverte à faire tchouva. On voit très souvent des bachourim, des gens qui viennent à la yeshiva hein, et qui se sont battus pendant des années contre leur etzara. Et un jour, ils sont venus à la yeshiva, ils ont pris sur eux, ils sont venus. Et là, d'un coup, ils ont décollé. Qu'est-ce qui s'est passé ? À mon avis, c'est exactement la même chose. Là, pendant ces années-là, il y avait cette lutte-là. Mais ils n'arrivaient jamais à sanctifier, à grandir. Parce que sans arrêt, ils faisaient une mitzvah, ils fautaient. Ils n'arrivaient pas à s'élever. Lorsqu'il est arrivé à la yeshiva, Baruch HaShem, il a réussi à s'isoler, à abandonner tout ce qui le tirait vers le bas. Et là, comme une fusée. Le Rav Aaron Kotler, il donne un machal, une parabole. Il dit que dans la tchouva, c'est exactement la même chose. Que la navette spatiale, d'accord, une fusée pour décoller, d'accord, elle a besoin de beaucoup, beaucoup de carburant, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essence. D'accord ? Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Lorsqu'elle aura brûlé toute son essence, elle va jeter ses deux réservoirs. Et là, elle va rentrer dans l'espace très facilement. Pourquoi ? Parce que le plus dur, c'est justement se détacher de la Terre. Enfin, en deux mots, le plus dur, c'est les 20 premiers kilomètres. Tu as passé les 20 premiers kilomètres, tu as fait le plus dur. D'accord ? Tu as beaucoup de tentations au début, tu as beaucoup de choses qui te dérangent. Si tu arrives à te détacher de ça, à enlever tout ce stress-là, de tous ces soucis-là, alors tu as fait le plus dur. Après, la teshuva, elle devient facile et agréable. Et bien, faire teshuva, lorsqu'on est dans un bon contexte, c'est une chose extraordinaire. Ce n'est pas une chose qui est contraignante ou une chose qui est angoissante. Les gens qui font, ou Hashem teshuva, be'ahava, ce n'est pas des gens qui sont tristes, c'est des gens qui sont samers, c'est des gens qui ont repris le goût de vivre. D'accord ? Voilà. Je vous raconte une petite histoire, messieurs. C'est vrai qu'on a parlé de tranquillité, d'accord ? Mais qu'est-ce que ça signifie la tranquillité ? La tranquillité, ça veut dire pas faire d'efforts ? Pas du tout. La tranquillité et les efforts sont deux notions qui sont liées, mais pas liées. C'est-à-dire qu'on doit faire beaucoup d'efforts, mais dans la tranquillité. L'effort pour la teshuva, c'est c'est un sine qua non, non ? C'est quoi le mot ? C'est une condition sine qua non. L'homme qui veut faire tchouva, mais qui veut faire zéro effort, il n'y arrivera jamais. La base de la tchouva, c'est justement l'effort que je vais faire, c'est le travail, la lutte que je vais faire. S'il n'y a pas de lutte, s'il n'y a pas d'effort, il ne peut pas y avoir tchouva. Je vous raconte une histoire, messieurs. Je ne me rappelle plus le nom du Rav, je suis désolé. En tout cas, on raconte que dans une certaine ville, il y avait un jeune enfant très, très turbulent, 13-14 ans comme ça, très 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 turbulent. Le problème, c'est que tous ses maîtres avaient compris que ce garçon-là, il était très 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 brillant, mais il n'arrivait pas à s'asseoir. Il aimait jouer, il aimait se courir dans la forêt, d'accord, il courait après les cerfs, il courait, et toutes sortes de bêtises. Il n'arrivait pas à s'asseoir. Et franchement, dommage, Baltashrit, c'est du gâchis. Un garçon comme ça, on pourrait le rendre un grand Talmid Chacham. Seulement, ils avaient perdu tout conseil, ils ne savaient pas comment faire. Et en un, il a eu l'idée de l'envoyer chez le Rav de la ville. D'accord ? À l'époque, apparemment, ce n'est pas quelque chose qui se faisait. Mais il dit, pour ce garçon-là, ça vaut le coup de déranger le Rav. Ils sont partis voir le Rav et ils lui ont expliqué le cas. Et lui ont dit, très bien, dites à ce jeune homme de venir me voir. J'ai besoin qu'il vienne m'aider à commencer à résoudre une affaire très importante, très difficile. Donc, ils ont dit ça au garçon. Le garçon a dit quoi ? Le Rav, il a besoin de me voir à moi. Une affaire très importante. Top, pourquoi pas, ça l'amuse, vas-y. Ça doit être aussi rigolo de courir après un cerf. Il va chez le Rav, il dit Shalom Rav, donc vous m'avez demandé de venir, je vous écoute, quel est le problème ? Il dit écoute, vraiment, il faut que tu m'aides. J'ai deux plaignants, enfin j'ai un plaignant qui est venu déposer une plainte et je ne sais pas quoi trancher, est-ce que tu peux m'aider ? Il dit, allez-y Raph, c'est quoi le problème ? Qui est venu se plaindre ? Il dit, les chaussures sont venues se plaindre du Sefer Torah. Les chaussures sont venues se plaindre du Sefer Torah. Alors le garçon, il tend l'oreille, il dit, mais c'est quoi cette histoire ? Il dit, mais je vais t'expliquer ! Les chaussures me racontent qu'il y a quelques mois, un monsieur très honorable, avec un beau costume, propre sur lui comme ça, est venu voir notre maître, quand je dis notre maître, lorsque les chaussures étaient encore de la peau de vache. Vous savez que les chaussures, on l'a fait avec de la peau de vache. Et il a demandé donc à notre maître de vendre quelques-unes de nos copines. Entre autres, moi. Donc, non, pas moi justement. Il a vendu donc quelques-unes de nos copines. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait faire un Sefer Torah. Pour faire un Sefer Torah, vous savez que le Sefer Torah, ce n'est pas écrit sur du papier, c'est écrit sur du parchemin. D'accord ? Et ce parchemin, il vient de la peau de vache. Et donc, notre maître a vendu quelques-unes de nos copines et plus tard, ils ont fait de ça un Sefer Torah. Très bien. Seulement, juste après, il y a un autre bonhomme qui est venu. Mais alors là, un bonhomme un peu plus, un peu plus... Lustre. Rustre. C'est quoi lustre ? Non, lustre, c'est illustré. Ouais, rustre. Un peu plus russe comme ça, oui bonjour, voilà. Il a besoin aussi d'acheter quelques vaches, pourquoi ? Parce que lui il est cordonnier, il veut fabriquer quelques chaussures. Et donc il nous a vendu entre autres moi. Et là depuis, ma vie est un enfer, d'accord ? Pourquoi ? Parce que vous savez, la vie d'une paire de godasses, d'accord ? Toute la journée on traîne dans la poussière, dans la boue. D'accord, on est sale sans arrêt, nos maîtres n'ont aucun respect pour nous. Le soir, ils nous permettent même pas de dormir dans leur chambre parce qu'ils disent qu'on sente mauvais. D'accord, c'est une vie, c'est horrible, c'est une humiliation. Et sans arrêt, ils nous écrasent, c'est affreux, c'est un cauchemar, non ? Tu vas pas pleurer, arrête, il a les larmes aux yeux. Arrête. C'est terrible. Tandis que, et au bout de quelques mois, qu'est-ce qu'on fait ? On nous prend, on nous jette à la poubelle. Tandis que, le Sefer Torah... Alors, le jour où on va l'introduire, on fait une grande fête avec des... Comment dire des comment tu dis en français ? Des grenades. Non, les... C'est pas grave. Quand on finit, ça, c'est pas... Des flambeaux. Avec les enfants et la musique, et on chante, on fait une grande séouda, et on lui réserve la meilleure place dans la synagogue. Tout le monde l'embrasse. Lorsqu'on sort le Sefer Torah, tout le monde se lève devant le Sefer Torah, on lui fait 1000 bisous, on le met dans un coffre-fort, surtout pour pas qu'il soit volé. Beaucoup d'honneur, beaucoup de extraordinaire. Et lorsque, après beaucoup d'années, il est usé, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'enterre avec beaucoup d'honneur aussi. On le met pas à la poubelle. On dit, c'est pas normal. Je suis pas d'accord. Il dit, eux et nous avons grandi dans la même étable, on a mangé le même foin. D'accord, on a tout pareil, on était sœurs. Et aujourd'hui, lui mérite beaucoup de cavode et moi, je mérite de manger de la poussière. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? C'est une vraie tarana, c'est une vraie... T'as les larmes aux yeux ? En tout cas, le petit garçon entend et il dit, écoutez, j'aimerais prendre la défense des chaussures, elles ont raison ! C'est vrai ? Pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Et Laura avait dit, mais mon petit garçon... Il ne faut pas se jeter comme ça rapidement et vouloir trancher rapidement. C'est vrai que d'un aspect, on va dire, superficiel, on entend leur plainte. Mais est-ce qu'elle est justifiée ? Il dit, écoute, des chaussures, comment est-ce qu'on fabrique des chaussures ? On prend de la peau de vache, d'accord ? On la coupe, on en fait la semelle, d'accord ? Pour faire la semelle d'Afghan, on l'utilise lorsqu'elle est très dure, on prend la peau, on la laisse sécher, on la taille et on la coupe. D'accord ? Lorsqu'on a besoin de faire le dessus, alors on traite un petit peu la peau, on fait du cuir, d'accord ? Quelque chose de quand même assez, comment t'as dit ? Rustre. D'accord ? Et grâce à ça, on fait des chaussures. D'accord ? Et d'ailleurs, ça ne coûte pas très cher une paire de chaussures. Pourquoi ça ne coûte pas très cher une paire de chaussures ? Parce que justement, le travail nécessaire pour fabriquer une paire de chaussures, il n'est pas si grand que ça. Tandis qu'un Sefer Torah, jusqu'à qu'on arrive à obtenir le parchemin, vous savez combien de processus, il y a, c'est énorme, 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 c'est un travail énorme. Et après quoi, le sofer, donc le scribe, il doit s'asseoir, il doit écrire, chaque fois qu'il va écrire le nom de Dieu, déjà il doit étudier énormément d'alachot, de loi, chaque fois qu'il va écrire le nom de Dieu, il va devoir penser certaines intentions, tous les matins il va aller au mikvé, etc., etc. Pour écrire un sefer Torah, il faut un an, et c'est beaucoup, beaucoup de travail, il y a beaucoup de sefer Torah qui, malheureusement, les sofrim, ils les ratent. Bon, ça s'arrange, mais malgré tout, c'est un grand investissement. Il dit, de la même façon, tu sais pourquoi est-ce que le Sefer Torah mérite du kavod, tandis que les chaussures n'en méritent pas ? Il dit, parce que pour arriver à ce qu'il est devenu, il a dû faire beaucoup d'efforts. Il a dû faire beaucoup d'efforts, il a dû travailler pendant un an, il a dû s'investir pendant un grand temps, il a dû donner vraiment beaucoup d'attention. Par contre, une paire de chaussures, pour la fabriquer, c'est très rapide. Donc elle n'a le mérite, elle reçoit le mérite que qu'elle mérite, comme ça on dit. Elle ne reçoit le kavod que qu'elle mérite. Exactement de la même façon. Si un homme, il va faire des efforts, d'accord, il va peiner pour justement avancer, pour grandir dans le chemin de la Torah, c'est normal qu'à la fin, alors il recevra tous ses honneurs. Pas seulement ses honneurs, toutes ces possibilités de grandir, cette élévation, il va s'élever. Il va arriver à devenir, comme un Sefer Torah, une chose sainte. Mais si l'homme ne fait aucun effort, à quoi il va arriver ? Quoi il va arriver ?
Il ne va pas dormir dans sa chambre.
Exactement, il ne voudra même pas dormir dans sa chambre. D'accord ? En tout cas, on raconte que le petit garçon, il a compris le message du Rav et il est devenu un des grands Talmid Chacham. On raconte même que ce Rav-là, il a encore aujourd'hui des grands Rashi Yeshivot, directeurs des Yeshivot, qui ont été ses Talmidim, ses élèves à ce Rav-là. Donc, messieurs, deux points. La tranquillité, prendre le temps de faire tchouva, prendre le temps de s'isoler, éliminer toutes les choses qui nous éloignent justement de cette tranquillité. Prendre le temps de réfléchir, les Hitbonen. Et la deuxième chose, ne pas avoir peur de faire des efforts. Lorsqu'on est devant sa Gemara, lorsqu'on est devant son étude, alors se casser la tête pour essayer de comprendre. Si se lever le matin c'est difficile, il faut savoir que c'est l'effort que je vais faire dans la tefila qui va donner une dimension à la tefila. D'accord ? Si quelqu'un il a du mal à se lever, il se lève déjà en soi, c'est un grand sacrifice qu'il aura fait avec Hachem. Top, Hachem Yebezrenou, Chazak Ubaruch.